RCF.
Tu ne tueras point, tu ne voleras point, honore ton père et ta mère. Alors si je vous demandais de citer les 10 commandements, auriez-vous la mémoire pour le faire? Mais surtout, au-delà d'une liste de lois, qu'est-ce que le décalogue vous évoque aujourd'hui? Alors peut-être plus qu'une série d'interdits, un encouragement à la liberté. Ces 10 commandements transmis à Moïse sont d'abord des paroles de vie. Et c'est ce qui vous a intéressé, Laetitia Calmen, bonjour.
Oui, bonjour Madeleine.
Vous êtes docteur en théologie, consacré dans le diocèse de Paris. Vous participez au dicaster pour la doctrine de la foi. Vous êtes enseignante à l'école cathédrale qu'on appelle aussi Collège des Bernardins, où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci de nous accueillir ici dans une des salles de cours du Collège des Bernardins.
Avec joie.
Et avec vous, le programme est assez simple. Un Ancien Testament, 2 émissions, 10 commandements. On va passer du temps sur ces paroles de Dieu à son peuple. Et passer ce temps, c'est revenir au Mont Sinaï avec Moïse. Racontez-nous comment ces commandements nous ont été transmis.
Alors en tout cas dans le texte, ils nous sont transmis par Moïse. Alors il y a un élément qui est très intéressant dans le texte lui-même, le dernier verset du chapitre 19. Ouais. On est dans le livre de l'Exode, donc chapitre 19, Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit, donc il descend de la montagne où il a reçu pendant 40 jours, il a été enseigné par Dieu. Hein, on dit que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait porté, ce qui lui permet d'avoir une relation de face à face, de vis-à-vis avec Dieu, et de recevoir directement de lui sa parole pour la transmettre. Et donc, je reviens au texte, parce qu'il y a un élément assez intéressant. Hein, donc, Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit, et puis, chapitre 20, verset 1, et donc c'est le verset qui suit immédiatement celui que je viens de redire, « Dieu prononça toutes ces paroles et dit ». Donc c'est Moïse qui dit, et puis à travers la parole de Moïse, ce que le texte nous fait comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui parle. Et je trouve qu'il y a là vraiment une forme de représentation de ce qu'est la transmission de la parole de Dieu. Il faut pouvoir la transmettre de telle manière que celui qui écoute puisse entendre Dieu qui lui parle au plus profond de lui-même, hein, dans son cœur. D'ailleurs, les 10 paroles sont adressées à un tu. En fait, il s'adresse au peuple. Et en même temps, c'est chacun, chaque membre du peuple qui est concerné par ces 10 paroles. Donc ça, c'est d'un point de vue du texte. Sinon, d'un point de vue plus historique, donc on se situe 3 mois après la libération d'Égypte, donc après la Pâque juive. Le peuple est libéré d'Égypte, il est libéré de l'esclavage. Il est dans le désert et le Seigneur intervient, donc 3 mois après, pour l'éduquer. Donc il a été libéré. Mais la question de fond, c'est comment est-ce qu'il va continuer à vivre de cette grâce de la libération? Une de nos vocations, c'est d'être des hommes et des femmes libres. Alors, libre ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Hein. Libre veut dire, au fond, être de plus en plus celui ou celle qu'on est appelé à être, être fidèle à sa vocation. Hein. Alors, pourquoi ces 10 commandements? Je pense que ça aussi, c'est une question importante. Hein. Si on se réfère au livre de la Genèse, on peut se rappeler qu'après le péché, l'homme a pris distance avec Dieu et donc il n'arrive plus à lire ce que Dieu a inscrit dans son cœur. Et donc, à distance de Dieu, cet accès à sa nature, cet accès à ce qu'on appelle traditionnellement la loi naturelle, n'est plus du tout de l'ordre de l'évidence.
Donc, après le péché.
Après le péché. Ouais. Donc, Dieu fait alliance à travers la vocation d'Abraham, où il y a déjà une élection. Et puis, le deuxième temps important dans l'histoire du salut de l'alliance, c'est ce don des 10 paroles. Alors, c'est intéressant, Saint Irénée dit de ces 10 paroles, Dieu a mis sur des tables ce que l'homme ne pouvait plus lire dans son cœur. Donc l'objectif des 10 paroles, c'est de redécouvrir en fait ce pourquoi on est fait.
C'est intéressant que vous insistiez sur la transmission parce que on a une différence entre la Bible et le Coran justement sur cette parole de Dieu. Moïse a reçu la parole de Dieu, il est intermédiaire.
Oui, il y a un élément important dans ce qu'on appelle en général, un peu de façon technique, le prologue. Hein, comment est-ce que Dieu se présente? Il dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. »
On est dans le chapitre 20, dans le livre de l'Exode.
Oui, exactement. Et donc, le Dieu d'Israël est un Dieu qui se révèle, qui intervient dans l'histoire pour libérer. Et donc, quand il se présente, il dit « Je suis le Dieu libérateur. » Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il a plutôt intérêt à être écouté. Hein. Si la loi visait à nous enfermer ou à nous empêcher de vivre, ça ne vaut pas trop le coup. Hein. Donc si c'est un Dieu libérateur, la parole qu'il va nous donner sera une parole pour être plus libre, une parole qui va nous libérer. Donc se souvenir de ce Dieu qui nous a sortis d'Égypte, de ce Dieu qui est aussi le Dieu créateur, celui qui nous donne la vie, c'est se situer par rapport à non seulement l'origine de la loi, mais aussi l'objectif. Donc être de plus en plus vivant et être de plus en plus libre.
Et pourtant, quand on parle des 10 commandements de manière assez naturelle comme ça, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est une liste d'interdits. Vous venez nous dire que non.
En général, quand on parle de la loi, ça, c'est un phénomène assez habituel, hein. Les gens voient dans la loi le permis défendu. Et on peut le comprendre. Quand on pense à la loi, on peut penser au code de la route. Et effectivement, c'est de l'ordre du permis défendu. La loi de Dieu est d'abord une parole de vie. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les 10 commandements se trouvent dans un ensemble de 5 livres qui sont appelés en hébreu Torah. Donc Torah veut dire loi. Et cette loi, quand on ouvre le livre de la Genèse, commence par « Au commencement, Dieu créa ». Donc d'emblée, on comprend que la loi, ce n'est pas simplement le précepte. La loi, c'est une histoire d'alliance. C'est la relation de Dieu avec sa création, avec l'être humain qu'il a créé, et donc ce Dieu qui donne la vie. Donc s'il donne une loi, c'est pour permettre à l'homme de recevoir cette vie pour laquelle il est fait, en fait, et pour entrer de plus en plus dans cette vie. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus qu'un ensemble de commandements qui rendrait compte ou qui expliciterait un permis défendu, quoi.
Oui, parce que vous parlez de la Genèse comme lieu de création. C'est le livre qui précède, hein, le livre de l'Exode. Mais au cœur même du livre de l'Exode, il y a aussi la mer Rouge, il y a aussi ce salut que Dieu très concrètement trace, en quelque sorte. Et là aussi, c'est une relation, on est dans l'ordre de la relation.
Oui, ce Dieu qui intervient dans l'histoire pour libérer son peuple, vraiment, pour faire de lui le bénéficiaire de son salut. Et c'est le sens de l'élection. Alors, l'élection n'est jamais une exclusion. Donc, quand Dieu choisit, quand il choisit un porte-parole, que ce soit le peuple d'Israël ou à l'intérieur même du peuple, le prophète, en l'occurrence Moïse, c'est pour que ce salut puisse être transmis. Alors, transmis aux membres du peuple d'Israël, mais Israël a vraiment un rôle parmi les nations. Il est le porte-parole de Dieu, il est celui qui va porter ce trésor que sont les 10 commandements. Et on voit en fait que dans toute l'histoire, il y a autant de commentaires de ces 10 commandements, autant d'explicitations dans des situations très particulières, pour témoigner d'un chemin de vie qui sera aussi celui de toutes les nations par l'intermédiaire du Christ. Le Christ qui va ouvrir cette grâce de l'élection à tout homme, en fait, puisque à ce moment-là, Dieu se fait chair, ça veut dire qu'il rejoint toute l'humanité, et donc le salut s'ouvre à ce moment-là à toute l'humanité.
On a aussi l'idée, dans ce verset, le numéro 2, « Je suis le Seigneur ton Dieu, vous le citiez, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » On a aussi l'idée qu'on a à faire mémoire aussi, on a à se souvenir des bienfaits.
Oui, ça c'est très important. Alors on se dit 3 mois après, quand même. La Pâque, ça devait être un événement hyper important, en fait, la Pâque. Et 3 mois après, il semble qu'Israël ait une mémoire un peu courte. Il faut que Dieu l'appelle à se remémorer l'événement. Et je pense que c'est très humain, ça. On a toujours tendance à s'arrêter sur ce qui ne va pas. En revanche, sur les grâces reçues, on les oublie très vite. Or, pour entrer dans un chemin de libération, l'acte de mémoire de la grâce reçue nous rend présent à cette grâce, parce que la grâce n'est jamais au passé. Quand Dieu intervient dans l'histoire, puisque Dieu est de toute éternité, son agir n'est jamais au passé. Vous savez que quand les Juifs célèbrent la Pâque juive, alors évidemment, ils font mémoire de cette Pâque, de cette libération d'Égypte, mais l'important, c'est de dire, mais aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on est libéré, en fait? La libération, elle n'est pas terminée. Nos pères sont sortis d'Égypte, mais nous aussi, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on sorte de l'esclavage. Comment est-ce que Dieu nous aide à sortir de l'esclavage? Donc la grâce nous met face à l'aujourd'hui de Dieu. Donc faire mémoire de la grâce, c'est se mettre en présence de Dieu, en fait.
Alors, on poursuit la lecture de ces commandements. D'ailleurs, je vous propose qu'on les écoute, ces commandements, pour les avoir à nouveau en tête. On écoute, en tout cas, un extrait de ce chapitre 20. On va entendre les versets 20 à 12, et ils sont lus par Hugo Vincent.
Alors, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom.
Voilà, on entendait les 10 commandements, en tout cas le début de ce texte, puisque d'autres commandements vont venir par la suite. Ça fait déjà une première partie. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Qu'est-ce que oui. nous demande Dieu d'avoir un intérêt exclusif pour lui?
Alors, il y a différentes versions. Hein. Donc,
oui. Vous êtes avec la version, la traduction de la Bible de Jérusalem.
Exactement. Oui. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu, vous avez dit, en face de moi. Moi, j'ai devant moi. L'expression est assez intéressante, en fait. Je me suis posé la question de savoir ce que l'on aurait compris si Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Ce qui est plus facile, en fait, puisque je peux me situer par rapport à moi-même, vous êtes d'accord? Sauf que le problème, c'est qu'on reste enfermé dans cette dernière idole que nous sommes pour nous-mêmes. Donc, quand le commandement dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », le « moi de Dieu », en fait, le commandement nous situe par rapport à ce Dieu qui nous libère. Donc, c'est une parole performative. C'est pas facile de se représenter, hein, ce commandement « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre quelque part un peu dans la relation à Dieu pour voir... Que veut dire avoir d'autres dieux devant lui?
Est-ce que c'est un dieu qui fait écran, qui serait entre moi?
Oui, qui serait entre moi et lui. Mais donc le fait de me situer, non pas vis-à-vis de moi-même, mais ouais. vis-à-vis de Dieu, est ce qui va me libérer, effectivement. Mmh. Si, parce que c'est en cela qu'il me libère. En fait, il est extrêmement difficile de se libérer de l'idolâtrie. On est tous un peu des idolâtres, il faut quand même le reconnaître. Parce qu'on a beau dire, oui, je suis chrétien, Jésus, c'est celui sur qui je bâtis ma vie. Mais clairement, au quotidien, on peut être pris par notre téléphone, par des angoisses financières, etc., qui sont tout à fait légitimes. Hein. Et donc, mettre le Dieu libérateur en premier, c'est se mettre dans les conditions fondamentale pour se laisser libérer. Hein, je te fais confiance, en fait. C'est toi qui vas me libérer. Tu es le Dieu libérateur. Donc, si c'est toi que je choisis, c'est parce que j'ai la certitude que c'est toi qui vas me libérer.
Donc, c'est à la fois le premier et l'exclusif. Un seul Dieu. Ça, c'est important parce qu'on pourrait se dire, après tout, le fait de prier, d'aimer Dieu, de lui redire chaque jour qu'on veut lui confier sa vie, en quoi ce serait, au fond, incompatible avec l'idée de s'investir peut-être dans une passion, ou comme vous le disiez, d'être préoccupé et d'avoir d'autres centres d'intérêt. Mmh. Ça veut dire que là, ça doit non seulement prendre la première place, mais aussi presque être la seule, en quelque sorte. Comment concilier ça?
Oui. Il est normal qu'on ait des préoccupations. Il est normal qu'on ait des passions. Moi, je suis passionnée d'équitation. J'aime beaucoup ça. La question, c'est comment est-ce que on ordonne dans notre vie nos différents engagements? Et comment est-ce que ces différents engagements, qui sont en eux-mêmes bons, peuvent parfois nous piéger dans la mesure où on devient trop passionné. Hein, c'est ce que Saint Ignace appelle l'attachement désordonné. Hein, vous savez, quand on est trop passionné, il y a un élément dans la vie qui prend le pas. Si effectivement c'est ma passion pour l'équitation qui va prendre le pas, si j'étais mariée, je ne le suis pas, je suis consacrée, mais si j'étais mariée, le risque c'est quand même de délaisser mon époux, mes enfants, etc. Donc il faut qu'il y ait un ordre dans notre vie. Et qui va donner cet ordre? Eh bien, c'est mon Créateur et mon Sauveur. Il va m'aider à mettre toute chose à sa place. Et de ce point de vue-là, l'ordre des commandements est assez intéressant, parce que l'ordre des commandements nous aide au fur et à mesure à mettre toutes les relations, à la fois personnelles, donc aux autres, mais aussi nos relations à la création, nos relations aux choses. Et donc, les commandements nous permettent de mettre tout cela à sa place.
Verset 4, tu ne feras aucune idole, là aussi, je lis ma traduction, mais on entendra la vôtre. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Si je le lis comme ça, spontanément, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux. Est-ce qu'on s'est trompé en représentant Dieu dans des tableaux? Est-ce qu'on s'est trompé en dessinant le Christ? Comment comprendre cette phrase?
Oui, je pense qu'elle elle reste actuelle, elle reste valide pour nous. Alors, qui nous permet, oui, précisément à la lettre, mais on va essayer de comprendre en quoi. Donc, tu ne te feras aucune image sculptée. Alors, il est vrai que l'événement de l'incarnation, le fait que le Verbe se soit fait chair, a permis aux contemporains de Jésus de le voir, de le toucher, etc. La résurrection du Christ et le don de l'Esprit-Saint nous le rapprochent. On peut se représenter Dieu parce qu'il s'est fait chair, parce qu'il est venu parmi nous. Alors, la représentation en tant que telle, elle est bonne. Mais il y a toujours un risque dans notre cœur, et c'est en cela que le commandement reste valide pour nous, il y a toujours un risque d'idolâtrer l'image qu'on se fait de Dieu. Je prends un exemple. Je peux être très marquée par l'image du Jésus miséricordieux de Sœur Faustine, qui est par ailleurs très beau et qui symboliquement est très fort. J'ai confiance en toi, Jésus. Donc je peux particulièrement aimer cette image. Eh bien, il pourrait parfois, dans notre vie spirituelle, il pourrait y avoir un risque d'enfermer toute ma relation à Dieu dans cette image et de ne plus pouvoir progresser. En fait, le but de l'image, le but de l'icône, le but de la représentation, c'est de nous donner de plus en plus accès au mystère divin, à l'événement de la révélation. Dans une relation, on apprend toujours à connaître davantage le Christ. Le Christ, Dieu trinitaire, et puis tout ce qu'il nous révèle dans l'histoire du salut. Donc, même d'un point de vue dogmatique, on peut parfois s'arrêter à des certitudes et ne plus du tout être en dialogue. On voit comment les guerres de religion sont quand même très marquées par ça. On a des certitudes et donc ces certitudes finissent par diviser, par obscurcir les relations, etc. Donc même dans le christianisme, où on peut se représenter Dieu, il peut y avoir un vrai risque d'idolâtrie.
On s'arrête sur ce qu'est une idole. Vous l'avez un petit peu dit auparavant, mais Laetitia Kahneman, ça concerne autant les athées que les croyants, cette histoire d'idole, parce que ça consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu, quelque part.
Oui. Alors, ça concerne peut-être encore plus les croyants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bénéficiaires de la révélation. Et donc, bénéficiaires de cette révélation du Dieu un d'Israël, comme on l'a dit, du Dieu qui donne vie et qui libère. À partir du moment où on a reçu cette révélation, eh bien, on peut reconnaître les idoles. On peut dire que tel attachement, telle relation prend trop de place et m'empêche, en fait, de grandir dans ma relation au Dieu un et trine, dans ma relation au Christ. Et donc, de ce point de vue-là, les chrétiens sont d'autant plus responsables de veiller à ce qu'il n'y ait pas, il y ait de moins en moins d'idoles dans leur vie, ou à se laisser libérer, en tout cas, de l'idolâtrie. C'est en cela que ces commandements sont toujours valides. On a toujours, aujourd'hui, besoin d'être libéré de cette idolâtrie. Pour les athées, je dirais, jusqu'où ils ont conscience, en fait, de leur idolâtrie. À partir du moment où on dit qu'on n'a pas de Dieu, le risque, effectivement, c'est d'avoir plein de dieux. En fait, puisque on a besoin d'être en relation, on a besoin de faire confiance. Alors, dans quoi est-ce que je mets ma confiance? Dans quoi est-ce que, sur quoi est-ce que ma vie se fonde? Est-ce que c'est sur l'astrologie? Est-ce que c'est sur les voyants? Est-ce que, et donc, nous, chrétiens, on a les critères de discernement pour dire, eh bien, non, en fait. Pas de ça. D'ailleurs, pour, vous savez, l'entrée dans le catéchuménat, le catéchumène, quand il fait son entrée, il est appelé à renoncer à ses idoles, en fait, pour choisir vraiment le Christ. Et c'est ce choix qui va lui permettre d'avancer vers le baptême. Mais c'est un combat. Et c'est un combat qui n'est jamais fini. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on n'est pas pris par de multiples idoles.
Ça veut dire qu'on lui demande d'identifier quels sont ses enfermements, en quelque sorte, ou en tout cas, ce qui l'empêche d'accéder à Dieu. Parce que ce que je comprends, c'est que le terme d'idole pour le chrétien, c'est ce qui va un peu freiner cet élan vers le Christ, peut-être.
Vers le Christ, vers Dieu, mais du coup aussi vers mon prochain. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je suis trop pris par une activité qui me passionne, alors la passion elle est bonne, mais il faut qu'elle soit raisonnablement ajustée à ma vie telle qu'elle s'exprime dans ma relation à mon époux, moi dans mon appartenance comme vierge consacrée au diocèse, d'abord à Dieu évidemment, mais je veux dire, donc il faut continuer à ordonner en fait nos attachements. Avoir des attachements, c'est très 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 juste, mais le rapport à Dieu nous permet de voir quelle est la juste place de chacune des dimensions de notre vie.
La foi en Dieu ordonne quelque part un peu ses passions aussi.
Oui.
Alors Laetitia Calmen, on poursuit avec ce verset 5. « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » C'est curieux ça, c'est de quoi Dieu est-il jaloux finalement? Est-ce que c'est une image, évidemment, on imagine, pour le rendre peut-être plus proche.
Oui. Alors, il arrive souvent que dans l'Écriture sainte, on décrit Dieu avec nos sentiments humains. Mais quelque part, ça anoblit un peu ces sentiments. Le Dieu jaloux, à mon avis, c'est le Dieu jaloux de notre amour, en fait. Vous voyez, jaloux, désireux d'être aimé de l'humanité, d'être aimé de ses interlocuteurs, en fait. Et la jalousie dit cela, parce que quand on l'éprouve, nous, c'est précisément parce qu'on a l'impression de ne pas être aimé, en fait. Donc, il prend un sentiment qui peut nous habiter et qui n'est pas, de notre côté, qui n'est pas vraiment noble, hein, parce que la jalousie, ça peut conduire, comme on peut le voir dans le texte de Genèse 4, hein, Caïn et Abel. Hein. On voit comment Caïn est jaloux d'Abel et ça va très loin. Donc, la jalousie, hein, elle peut être très mortifère, elle peut être meurtrière. Donc, c'est un vice et ça peut parfois être de l'ordre du péché. Sauf que quand on dit que Dieu est jaloux, eh bien, c'est vraiment jaloux de l'amour qu'on est appelé à lui donner, en fait. Et donc, de ce côté-là, il y a quelque chose de très juste et de très beau. Il veut être le premier. Mmh. Et c'est la manière dont le texte l'exprime. Et il a raison de vouloir être le premier, parce que c'est quand il est premier dans notre vie qu'on peut aimer réellement les autres et toute la réalité qui nous entoure, en fait. Mmh.
Alors il y a aussi un rapport au temps, parce que on l'a vu hein, depuis le départ, ces verbes sont conjugués au futur, mais il y a aussi un rapport au temps. Et ces commandements, ils sont pour maintenant, pour plus tard, puisque le futur est utilisé, tu ne serviras pas les idoles, tu ne te prosterneras pas.
Oui. Alors ils sont pour maintenant et plus tard. En fait, là, quand on les lit, quand on les prononce, quand on les écoute, surtout écoute Israël, écoute, eh bien, on les reçoit toujours à nouveau. Parce que la vie, elle continue. L'histoire, elle continue. Donc, en fait, les commandements, c'est toujours un défi, en fait. C'est toujours un combat à venir. C'est toujours une réalisation qui se vivra au niveau de nos actes. Donc, en fait, c'est un accomplissement à venir. Alors, on peut bénéficier hein, de l'exemple de nos pères. Hein. La force des générations dans l'histoire du salut hein, est une réalité. Hein. Comment est-ce que je bénéficie non seulement de l'héritage génétique de mes parents, mais aussi de leur exemple dans leur obéissance aux commandements, et comment est-ce que cet exemple m'engendre aussi à faire de même et à me projeter dans l'avenir. D'ailleurs, dans le texte, c'est assez intéressant parce qu'il est question des générations.
Voilà, oui, sur la
Alors,
suite.
Là, plutôt des générations à venir, comme vous le disiez, hein, par rapport aux enfants, les petits-enfants. Et en fait, c'est assez dur. Là, on est face à un Dieu jaloux. Alors là, la jalousie, on en a parlé, mais à un Dieu qui punit, mais qui fait grâce quand même. Alors la punition, si on reprend le texte, repose sur trois générations. Hein. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Alors ces trois générations sont symboliques et veulent dire qu'en fait, l'idolâtrie a des conséquences. Et ces conséquences ont une fin dans l'histoire. Alors en fait, c'est très réel et c'est très concret. Si on est des grands consommateurs, hein, on est quand même marqué par une société hyper consommatrice. C'est une forme d'idolâtrie, en fait. Nous, chrétiens, on a beau essayer d'avoir une écologie intégrale, on est quand même pris par cette hyper consommation. Ben, cette hyper consommation, elle va avoir des conséquences sur les générations suivantes. Donc, et c'est vrai pour toute idolâtrie, en fait. Donc ce que le Seigneur nous dit à travers le terme punition, qui pourrait être compris, je crois, différemment, c'est dire, mais en fait, vos actes ont des conséquences. Et l'idolâtrie coûte cher.
Et c'est pas forcément la génération de sang, c'est la génération de l'humanité, en quelque sorte. Ce sont les générations de l'humanité.
Ça peut être la génération de sang, hein, parce que je pense que quand dans une famille, on peut être marqué par des parents qui ont eu des passions et qui sont peut-être moins occupés de nous. Donc ça peut être dans une famille, ça peut être au niveau sociétal, ça peut être. Mais l'important, c'est de se dire, voilà, trois générations, il y a une fin dans l'histoire.
Il y a une fin dans la malédiction, c'est ça que vous dites.
Il y a une fin dans la malédiction, en tout cas, et qui est historique. Mmh. Quand il est dit « je fais grâce à des milliers », c'est là où on a tout intérêt à être fidèle, parce que la récompense est plus grande. Les milliers, c'est toutes les générations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je pose un véritable acte de foi en Dieu, qui se prolonge peut-être par la charité ou par un acte concret qui s'exprime en termes d'espérance, eh bien, cet acte de foi va avoir une conséquence sur toutes les générations. Pour moi, il y a là un élément hyper important.
C'est autre chose que la communion des saints, ce que vous nous dites là.
Alors, c'est un peu justement, lié. Moi je trouve que ça rejoint la communion des saints. Il m'arrive d'aller visiter des personnes âgées en EHPAD, et c'est sûr que ces personnes peuvent parfois souffrir de solitude, et ce que je leur dis souvent, c'est mais ce que vous vivez à travers votre foi en Dieu est infiniment missionnaire. Alors pourquoi en particulier les personnes âgées? Parce que ces personnes, elles sont marquées par une passivité qui les amène à poser un acte de foi très profond. Et plus l'acte de foi est profond, même s'il est posé secrètement dans une chambre de malade ou dans une chambre d'EHPAD, plus il est posé secrètement et dans la profondeur, plus il a une extension immense. Et ça, c'est ce que le texte nous dit en fait. Votre fidélité à Dieu, quelle que soit votre situation, a une extension sur toutes les générations. Et donc ça rejoint effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la foi chrétienne, la communion des saints. Nos actes ont un retentissement, nos actes mauvais ont un retentissement, donc les actes mauvais qui résultent de l'infidélité, et nos actes bons ont un retentissement pour l'éternité.
Et puis ce dernier verset pour conclure cette émission, « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. » Est-ce qu'on peut vraiment prononcer le nom de Dieu en vain, comme ça nous l'est écrit? Ouais.
Alors le fait de prononcer le nom de Dieu, vous savez que dans la tradition juive, aujourd'hui, on peut le prononcer une fois par an, c'est le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il est intéressant de savoir que le nom de Jésus, c'est celui qui sauve en fait. Et je pense que ce commandement nous rappelle que quand on prononce le nom de Jésus...
Le nom de Jésus ou le nom de Dieu, peu importe.
Le nom de Dieu ou le nom de Jésus, mais en tout cas, c'est sûr que le nom de Jésus nous parle immédiatement de par l'incarnation. Hein. C'est Dieu qui sauve en fait. Le nom de Jésus dit le nom de
dit
Dieu.
Déjà. Dit
le nom de Dieu. Hein, c'est le Dieu qui libère, qui pardonne. Et donc, quand on prononce son nom, est-ce qu'on se réfère à la réalité? Est-ce qu'on se réfère au Dieu sauveur, à ce Dieu qui s'est fait chair et qui vient nous sauver. Hein. On voit bien que quand on va à la messe, au moment du credo, je crois en Dieu le Père, mais est-ce que je me réfère réellement à ce Dieu le Père? Est-ce que je professe ou est-ce que je récite? Et donc, il nous arrive fréquemment, en fait, de réciter et on passe à côté d'une grâce immense, en fait. Prononcer le nom En se représentant, en se mettant en présence de celui dont on prononce le nom, eh bien c'est quand même voilà, c'est la relation en fait, c'est entrer dans la grâce de la révélation. Je crois qu'il y a là quelque chose à intégrer pour nous chrétiens, qui est très vrai dans le cas de l'histoire du peuple juif, mais qui est très vrai pour nous aujourd'hui.
Se mettre en présence de Dieu, et on peut le faire en suivant les 10 commandements. On en a déjà étudié quelques-uns avec vous, Laetitia Calmen. Merci beaucoup.
Merci.
Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, consacrée dans le diocèse de Paris, et vous êtes également au sein du Dicaster pour la doctrine de la foi, et puis enseignante ici à l'école cathédrale qu'on appelle le Collège des Bernardins. On a entendu un peu les élèves durant cette émission, parce que nous sommes tout simplement dans une des salles de cours. Merci beaucoup. À la
Merci
semaine prochaine.
Merci à vous. Au revoir.